Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Des pertes de sang, une gêne ou une douleur pelvienne, mais parfois leur développement et leur présence n'entraînent ni gêne ni symptômes particuliers. Ce sont les fibromes utérins, des tumeurs gynécologiques bénignes, fréquentes, puisqu'elles concernent près du tiers des femmes de 35 à 50 ans. Si cette notion d'âge entre en ligne de compte, c'est parce que la survenue des fibromes peut être liée aux sécrétions hormonales, ce qui explique de fait qu'ils régressent à la ménopause. Le traitement des fibromes, lui, tient compte de facteurs multiples, encore et toujours l'âge de la femme et avec lui ses projets de grossesse. La prise en charge tient compte aussi de l'évolution des tumeurs, comme de leur nombre, leur volume, l'intensité des symptômes, car si les fibromes utérins peuvent être traités de nombreuses manières, de la simple surveillance à la chirurgie, tout dépendra des cas. Médicaments et dispositifs intra-utérins ou opérations, de nombreuses réponses sont possibles. Même s'il faut le rappeler, le fibrome reste la première cause d'ablation de l'utérus des femmes en âge de procréer. Les fibromes utérins. Pour en parler avec nous en studio, docteur Joanne Norca, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricienne à l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis. Tout à l'heure, nous retrouverons en ligne du Cameroun le docteur Monique Onomojong, gynécologue obstétricienne à Douala. Et on attend bien sûr vos témoignages, vos questions. Elles sont déjà nombreuses au standard de priorité santé au 33 84 22 75 75. En fin d'émission, on va retrouver le bulletin de santé avec cette semaine à la une le compte à rebours enclenché avant de pouvoir annoncer la fin de l'épidémie d'Ebola dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Confirmation d'une première période d'incubation de 21 jours sans nouvelle contamination. Et puis en France, le report pour septembre de la réforme de l'hôpital. Le projet doit être encore discuté avec les différents acteurs du système.
Priorité santé sur RFI.
Si vous le voulez bien, docteur Joanne Norca, on va d'abord définir ce que sont ces fibromes utérins. On parle de tumeurs, de myomes, mais si on parle de tumeurs, c'est important de le dire d'emblée, des tumeurs bénignes.
Exactement.
Ça veut dire non cancéreuses.
Exactement. Exactement. Donc, il s'agit bien en fait de tumeurs bénignes, donc qui en aucun cas ne peuvent se transformer en cancer. Ça reste quelque chose de bénin, donc qui n'entraîne pas la mort. Voilà.
Mais en tout cas, ça peut être vraiment problématique pour la santé de la femme.
Effectivement. Par contre, ça peut être symptomatique, donc entraîner des symptômes et donc des désagréments, donc avec des douleurs, des saignements, et peut aussi avoir un impact sur la fertilité.
Alors, souvent un fibrome ou plusieurs fibromes?
Alors, c'est effectivement très variable. Il y a des patients qui peuvent avoir un très gros fibrome et d'autres patients qui peuvent avoir plusieurs ou de nombreux fibromes de tailles différentes.
Docteur Joanne Norca, ils peuvent être localisés en différents endroits de la paroi utérine. Qu'est-ce qui détermine en fait cette localisation et où peut-on les trouver?
Alors, effectivement, les fibromes se situent dans toutes les parties de l'utérus. En fait, l'utérus a essentiellement trois couches. Une couche interne, en fait, qui est le tapis. En fait, c'est le tapis sur lequel, par exemple, lorsqu'il y a une grossesse, l'œuf va s'implanter, qu'on appelle l'endomètre. Et donc, du coup, lorsque le fibrome va se situer dans cette zone, les symptômes qui sont associés essentiellement, c'est une augmentation de l'abondance des règles. Ou alors des saignements qui surviennent en dehors des règles. Maintenant, dans la partie qu'on appelle en fait le myomètre, qui est en fait l'épaisseur majoritaire en fait de l'utérus, c'est vraiment en fait là il n'y a pas forcément de symptômes, sauf si le fibrome est très gros. Et enfin, on a une autre couche qui est plus externe, donc en fait qui est plus extérieure au à l'utérus, qui s'appelle la séreuse. Et en fait qui est plus, donc lorsque le fibrome se situe ici, donc le fibrome sera plus extérieur. Globalement, ce qui est important pour nous, ça va être important pour nous de bien savoir où se situent les fibromes pour adapter le traitement. Parce qu'en fonction des traitements, en fonction des symptômes, on détermine aussi le traitement et en fonction de ce que la patiente souhaite. En fonction de son désir de grossesse et de son âge.
Et justement, en fonction de l'implantation de fibromes, est-ce que la femme va ressentir des choses différentes, va avoir une gêne ou une douleur particulière, docteur Norca?
Donc, comme j'ai dit, Si le fibrome est plus à l'intérieur de l'utérus, il y aura plus de saignement. Si le fibrome est plus à l'extérieur et qu'en plus il est gros, il y aura davantage en fait de sensations de pesanteur ou de douleur, ou en tout cas d'augmentation du volume de l'abdomen. Et puis par ailleurs, si le fibrome il est gros et qu'il a tendance en fait par rapport à sa localisation à appuyer sur la vessie, ça peut aussi entraîner des symptômes urinaires.
Alors, qu'est-ce qui détermine en fait la taille et le nombre de ces fibromes? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui?
Non, malheureusement. En fait, on sait peu de choses. C'est quand même une tumeur qui est très fréquente. Et en fait, on ne sait pas déjà pourquoi il y a des femmes qui sont plus... qui malheureusement, en fait, ont ces fibromes ou ont plus de fibromes que d'autres. Et pourquoi il y aura des fibromes qui seront plus à telle ou telle localisation? Ça, malheureusement, on ne le sait pas.
Des facteurs d'hérédité, par exemple, si on se dit « maman a eu un fibrome, est-ce que j'ai davantage de risques d'en avoir ?»
Oui, mais en fait, ce que l'on sait, c'est que du coup, c'est plus en fait comme facteur, on va dire, de risque, l'ethnie, ou en tout cas la race. Donc en fait, les femmes qui sont noires, d'origine africaine, d'origine antillaise, c'est vraiment en fait la population qui est le plus à risque d'avoir des fibromes. Ça arrive également moins fréquemment chez les patientes qui sont d'origine caucasienne, donc les patientes qui sont blanches ou autres.
Alors, il y a un facteur qui est très important, docteur Joanne Norca. Il s'agit bien de l'âge, pas forcément pour un facteur déclenchant, mais un facteur pour justement savoir quand ces fibromes peuvent éventuellement se développer.
Oui, alors c'est sûr que ce sont des tumeurs bénignes qui sont liées à l'imprégnation hormonale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est les fibromes ou les myomes apparaissent lorsqu'on est en âge de procréer. Ça veut dire que ce sont les patientes qui ont des règles. Donc, on sait que par exemple les patientes qui ont eu des règles à un âge jeune, elles auront en fait plus d'hormones dans leur vie qu'une patiente qui aura eu des règles, l'apparition des règles à un âge moins jeune. Et donc, ça sous-entend que en fait les symptômes des fibromes cessent, donc s'arrêtent au moment de la ménopause. Donc à la ménopause, les patientes, elles n'ont plus de règles, donc elles n'auront plus de règles abondantes et normalement, elles n'auront plus de douleurs, en tout cas liées au fibrome.
Ce qui peut expliquer aussi que dans certains cas, on se contente d'une surveillance en attendant justement la survenue de la ménopause.
Alors effectivement, en fait, on doit vraiment répondre à la problématique de la patiente et avoir une conduite à tenir qui est vraiment spécifique et qui tient compte de l'âge de la patiente, de son éventuel désir de grossesse. Et si c'est une patiente qui est, entre guillemets, à un âge proche de la ménopause et qui a des symptômes qui peuvent être résolus avec des médicaments, eh ben, ça peut être en fait une bonne alternative dans l'attente de la ménopause.
Alors, docteur Joanne Norca, vous êtes gynécologue. C'est quoi précisément les recherches, les examens qui sont décidés quand il y a un soupçon de fibrome?
Alors, c'est des examens d'imagerie. Donc, on va demander à la patiente de réaliser une échographie pelvienne. Donc, c'est une échographie de l'utérus. C'est vraiment un examen de première intention. C'est un examen qui est facilement réalisable, que l'on peut faire soit par un gynécologue, soit par un radiologue. De première intention, ça veut dire de façon préférentielle, on préférera qu'il soit réalisé par voie vaginale, donc en mettant une sonde dans le vagin, parce qu'on sait que à l'échographie, on voit mieux la structure qui nous intéresse lorsque la sonde est proche de ce que l'on veut étudier. Donc par voie vaginale, on arrive à mieux voir l'utérus et donc les fibromes. Maintenant, lorsque l'utérus il est gros parce que les fibromes sont gros, eh bien l'échographie elle peut être aussi par voie abdominale. On posera la sonde sur l'abdomen,
comme ce qu'on fait quand on fait une échographie grossesse, par exemple.
Exactement, exactement. Et puis enfin, le meilleur examen, surtout lorsqu'il y a beaucoup de fibromes, ça reste l'IRM. L'IRM pelvienne, en fait, c'est comme une sorte de scanner, mais un scanner amélioré, qui permet vraiment en fait, d'avoir une bonne étude de l'utérus. Et non seulement, en fait, on va pouvoir étudier donc l'utérus et puis bien sûr aussi les ovaires.
Alors, docteur Joanne Norca, vous restez avec nous. On va tout de suite donner la parole aux auditrices de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et la première de ces auditrices s'appelle Madia. Elle est en ligne du Gabon, de Libreville. Bonjour Madia.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors moi j'ai trois questions.
Oui.
Il y a bientôt un an que j'ai été opérée des myomes.
Oui.
Et j'aimerais savoir déjà pour la première question, est-ce que ça peut revenir?
Alors vous avez quel âge Madia?
J'ai 30 ans.
D'accord. Donc effectivement, on sait que, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes en âge de procréer, donc vous êtes encore jeune. Et donc du coup, malheureusement, les fibromes peuvent effectivement revenir. Simplement, ce que l'on peut pas déterminer, c'est, je peux pas vous dire dans combien de temps. On sait que les fibromes, ça prend normalement des mois, voire des années. Et je peux pas non plus vous dire donc ni leur nombre, ni là où ils seront situés l'utérus.
Vous avez d'autres questions, Madia? On vous écoute.
Oui, j'ai d'autres questions. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des mesures ou des précautions à prendre?
Des mesures
pour
de prévention
éviter que ça récidive, c'est ça? Mm-hmm. Oui. Eh ben en fait non, malheureusement vous n'avez pas réellement d'action, vous n'avez pas de choses à faire qui empêche la récidive des fibromes.
Il n'y a pas de traitement préventif. Et vous aviez dit trois questions, votre dernière question.
Oui, c'est la troisième. Oui. Alors on dit souvent qu'il faut faire un bébé pour éviter les myomes. Est-ce que c'est vrai?
Est-ce qu'il y a une relation entre justement une grossesse et le retour ou la récidive de fibromes, docteur Norka?
Alors en fait, on sait que les fibromes, ils sont effectivement alimentés entre guillemets par les hormones. Et moi, le seul conseil que j'ai envie de vous donner, c'est si vous voulez une grossesse, allez-y. Mais en tout cas, ne faites pas une grossesse pour empêcher la récidive de fibromes. Maintenant, si vous voulez une grossesse, vous avez 30 ans, c'est exactement le bon moment pour avoir une grossesse. Vous avez des enfants?
Oui, j'ai un petit garçon de 4 ans.
D'accord, ok. Et donc, vous en voudrez d'autres, j'imagine, d'autres enfants?
Oui, bien sûr.
Mm-hmm. Donc, si vous avez envie d'avoir d'autres enfants et si actuellement, pour vous, c'est le bon moment, eh bien, écoutez, allez-y. Je pense que c'est une bonne chose parce que vous êtes fait opérer des fibromes. Donc là, du coup, réellement, c'est le bon moment. Si c'est votre soin, en
D'accord.
Voilà, bah écoutez, excellente journée à vous à Libreville, Madia. J'espère qu'on a bien répondu à vos questions. On reste dans cette même ville de Libreville au Gabon où l'on retrouve Jessica. Jessica, bonjour.
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 On vous écoute.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Merci.
Docteur Joanne Roca vous écoute. Vos questions.
Alors moi, c'est par rapport à l'hygiène vaginale.
D'accord.
Je voudrais savoir s'il y a un lien entre l'hygiène vaginale et les fibromes.
Alors pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de lien entre l'hygiène vaginale et l'apparition des fibromes.
C'est quelque chose qui se dit autour de vous, dans la famille ou entre amis? Un petit peu des rumeurs entre femmes?
Oui, ce sont des amis, en fait, qui m'ont dit que si je voulais éliminer les fibromes, je devais utiliser des gélules naturelles pour pouvoir les ingérer dans le vagin, pour pouvoir éliminer les toxines et la biotique qui sont dans...
D'accord. Alors, je suis désolée, mais vraiment, il n'y a pas de lien. Il n'y a vraiment pas de lien. Et donc, du coup, c'est ce que l'on vous conseille là, de mettre dans le vagin, vous voulez procurer où?
Elles disent de prendre des herbes naturelles.
Mais qui les dispense ces gélules? C'est chez le tradipraticien, la pharmacie?
Effectivement, le tradipraticien, oui.
Voilà. Donc moi, encore une fois, le conseil que je peux vous donner, c'est il faut aller voir un médecin. C'est réellement, en fait...
J'ai déjà vu un médecin.
Comment?
J'ai déjà vu un médecin, il m'a prescrit un traitement que je prends pendant 10 jours dans le cycle, le 16e au 25e jour du cycle.
Oui.
Ça n'élimine pas, il m'a dit, ça réduit seulement le volume du fibrome.
Exactement. Malheureusement, on n'a pas de traitement qui permette en fait d'éliminer le fibrome. Et donc, encore une fois, réellement, il n'y a pas donc tous les traitements là qu'on peut vous donner, que vous pouvez procurer auprès du tradipraticien. À mon sens, ce n'est pas la solution. Et ce n'est surtout pas une bonne chose, en tout cas pour traiter les fibromes. Réellement, il faut mieux, comme vous l'avez fait, aller voir un médecin, un gynécologue.
Et d'ailleurs, lui en parler d'ailleurs, Jessica, poser ces questions directement à votre médecin, il faut le dire sans crainte. Si vos amis vous proposent, vous parlent de tel ou tel produit, avant de faire quoi que ce soit, bien évidemment, parlez-en à votre médecin.
Tout à fait d'accord.
Ok.
Voilà.
Vous avez une autre question?
La dernière question, rejoignait celle de Nadia pour savoir si les enfants pouvaient éliminer les fibromes.
Je n'ai pas compris.
Oui.
Les enfants, la grossesse, est-ce que la grossesse permet d'éradiquer les fibromes?
On a répondu à cette question avec Madia. La réponse qu'avait donnée le docteur Joanne Norka, c'est que ce n'est pas un médicament, un bébé contre un fibrome. Oui. Par contre, si on a un désir de grossesse, eh bien, faire cet enfant tout simplement. Mmh.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun traitement qui permette de faire disparaître le fibrome. Si on ne se fait opérer, ben, on peut enlever le ou les fibromes, mais il n'y a pas de médicament qui permet de faire disparaître le fibrome. Et donc, avoir une grossesse ne va pas faire disparaître le fibrome. On peut avoir une grossesse en ayant un fibrome en place, mais le fibrome ne va pas disparaître. D'accord?
Ok, d'accord.
Voilà, Jessica. Excellente Merci. Journée à Libreville, au Gabon. On part pour la Côte d'Ivoire maintenant, pour Abidjan, où l'on retrouve Christiane. Bonjour, Christiane.
Bonjour, docteur.
Bonjour.
En fait, voilà, je vous appelle parce que moi, j'ai été opérée des fibromes.
Oui.
Mais vraiment, j'avais pas très mal. Hein. Je l'ai fait parce que je voulais procréer. Le médecin m'a dit que ça gênerait pour avoir un bébé et tout ça.
D'accord.
Et après l'intervention, je n'ai plus de règles.
D'accord.
Et ma première question est de savoir pourquoi je n'ai plus de règles.
Mmh.
Et voilà. Et la seconde question est de savoir aussi, est-ce que je pourrais en avoir ou faire un bébé malgré l'absence des règles?
Quel âge avez-vous, Christiane?
43 ans maintenant. Mmh.
Votre réponse, Joanne.
Et donc, du coup, vous êtes fait opérer il y a 4 ans, c'est ça?
Voilà, depuis 2014.
Donc, à l'époque, vous aviez 39 ans. Et donc, depuis l'opération, il n'y a jamais eu de règles.
Plus
c'est bien
jamais.
Ça.
Oui.
D'accord. Vous avez des bouffées de chaleur associées?
Pardon?
Vous avez des bouffées de chaleur associées?
Oui, j'ai des bouffées de chaleur qui sont apparues cette année.
D'accord, cette année, d'accord. Et avant, en fait, l'opération, les règles étaient bien régulières?
Normal.
Bon.
Oui.
Alors, c'est difficile de répondre de façon formelle à la radio.
Peut-être, docteur Joanne Norka, qu'il faudrait conseiller à Christiane d'aller consulter, faire éventuellement un test biologique.
Alors, en fait, normalement, par rapport à la ménopause, alors, on sait que normalement, la prise de sang ne permet pas de diagnostiquer de façon formelle une ménopause. Mmh. On parle de ménopause, c'est un diagnostic clinique, ça veut dire qu'on dit qu'il y a une ménopause lorsqu'il y a un an sans règles. Mais je pense que le plus important, c'est quand même que vous alliez revoir un gynécologue et un médecin. Et que du coup, ce qui est important en plus, je sais pas de quelle manière vous avez été opérée, ça c'est hyper important et ça, je pense qu'on peut pas en parler comme ça à la radio, mais ce qu'il faudra faire, c'est aller voir un médecin, un gynécologue et éventuellement vérifier l'intérieur de l'utérus, l'intérieur de la cavité. Voilà. Et puis éventuellement, peut-être aussi faire une prise de sang, pour voir si effectivement il y a des signes. Mais le fait que vous décriviez des bouffées de chaleur associées à l'absence de règles, ben on a l'impression quand même que ce serait peut-être une ménopause. Mais je ne peux pas être formelle, donc il faut quand même aller voir un médecin et un gynécologue. D'accord.
J'ai eu cette même idée. J'ai été voir le médecin parce que ça m'inquiétait d'avoir des bouffées de chaleur.
Oui.
Et j'ai fait des tests de la ménopause.
Ah.
Non, il n'y a pas de ménopause.
D'accord.
J'ai fait donc des examens plus approfondis. On a dit que j'avais une synéchie.
Voilà, c'est pour ça que je vous ai demandé en fait et donc la synéchie, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est lorsqu'il y a un accolement des faces de l'utérus. Donc en fait, le tapis, l'intérieur de l'utérus, l'endomètre, il peut pas en fait grossir lors du cycle et entraîner des règles lorsqu'il n'y a pas eu de grossesse. C'est parce que justement en fait, il n'y a pas d'espace libre. Le tapis n'est plus en fait fonctionnel. Donc là du coup, le traitement, c'est une opération pour aller essayer de libérer ce tapis. Mais c'est ce qu'on vous a proposé probablement.
On me l'a proposé, on m'a mis une espèce de sonde dans l'utérus.
Oui.
Après 2 jours, cette sonde est tombée.
Oui.
Et puis voilà, j'ai plus jamais refait quoi que ce soit parce qu'après ça me faisait mal.
D'accord. Bon. Là, de toute façon, ce qui est prévu, c'est que vous allez revoir le gynécologue, non?
Oui, je vais le revoir, mais j'avoue que je suis un peu déçue, quoi.
Ben, ce traitement marche pas forcément à tous les coups, c'est pas très évident, hein. D'autant, alors voilà, c'est encore une fois, on est à la radio, donc moi je n'ai pas tous les éléments en main. Mais si la synéchie, donc en fait, occupe toute la cavité de l'utérus, donc tout l'utérus, c'est vrai que il n'est pas évident de pouvoir retrouver un endomètre, donc le tapis, qui soit à nouveau strictement normal.
D'accord. Merci, docteur.
Merci à vous.
Oh, non, excusez-moi encore. Oui. La dernière question est de savoir, est-ce que je pourrais avoir un bébé
Ben, la question, je pense que la question, elle est incluse dans la réponse que vous a fait le docteur Joanne Norcal. L'essentiel, c'est d'aller voir votre gynécologue, de voir avec lui s'il peut y avoir une réponse médicale à cette question, parce que tant qu'il n'y a pas de retour des règles, c'est très compliqué.
Exactement.
Il faut voir avec lui.
Ouais, exactement.
Merci, docteur.
Merci.
Excellente journée à vous, Christiane. On va prendre un appel du Cameroun, de Yaoundé. C'est Didine qui est en ligne. Bonjour, Didine.
Bonjour, c'est de Douala plutôt.
De Douala, bah, y a une petite erreur sur mes notes, je corrige tout de suite, Douala. On est toujours au Cameroun en tout cas, c'est l'essentiel. Oui. On écoute votre question.
Oui, je disais, il y a juste une vingtaine de jours, je viens de me faire opérer des myomes. Bon, ma question est de savoir si après que je me sois débarrassée de tout ça, je pourrais concevoir d'ici là.
Toujours
parce
une même.
Que le médecin, lui, il me donnait 6 mois.
Toujours une même question à nos auditrices. Hein, quand vous nous parlez de désir d'enfant, vous avez quel âge, Didine?
36 ans.
Docteur Joanne Norcal.
Oui. Alors votre médecin, donc vous avez déjà, il vous a déjà donné la bonne réponse. Effectivement, du coup après une opération, il y a un délai minimum de 6 mois. Donc c'est très important de respecter ce délai. J'imagine que si vous atteignez ce délai, c'est que il a dû vous opérer en faisant une cicatrice, comme une cicatrice césarienne, une cicatrice sur le ventre. C'est ça?
Oui.
Oui, voilà. Donc c'est très très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait ce genre d'opération, si on a une grossesse de façon trop rapprochée par rapport à l'opération, il y a un risque pendant la grossesse ou pendant le travail à la fin de la grossesse de rupture de l'utérus. Ça veut dire en fait que l'utérus, comme il a été fragilisé, que l'utérus il s'ouvre, et s'il s'ouvre alors qu'il y a un bébé qui est en place, c'est un risque qui est très important, à la fois pour vous, à la fois pour le bébé. Pour vous, il y a un risque de saignement très important. Et pour le bébé, il y a un risque, malheureusement, qu'il soit pas très bien et même qu'il meure. Donc voilà, c'est très très important.
Donc respectez ce délai.
Bien. Et encore une fois, je pense que vraiment le message là à faire passer, c'est que encore une fois, les médecins vous donnent de très bonnes informations. Donc il faut vraiment aller voir les médecins pour et respecter ce qu'ils vous disent.
Voilà, Didine, pour cette réponse du docteur Joanne Norcal. On vous souhaite une bonne journée à Douala, j'ai bien compris, au Cameroun. Et on reste au Cameroun. Retrouvez Marceline à Yaoundé. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Bonjour, Marceline.
Bonjour, Caroline.
On vous écoute, Marceline.
Oui, j'avais une question à poser au médecin.
Oui.
J'ai un problème. J'ai un myome de 60 mm qui est posé sur mon utérus. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un autre moyen pour enlever ce myome ou bien il faut seulement passer par une intervention chirurgicale? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est que est-ce que je peux concevoir avec ça parce que j'ai un projet de faire une FIV?
D'accord. Alors, la première question, comme j'ai déjà dit, on ne peut pas enlever les fibromes autrement que par l'opération, que par la chirurgie. Et pour la deuxième question, si vous avez un projet de FIV, c'est donc vous avez probablement déjà consulté un gynécologue à cet effet. Et donc en fait, pour la deuxième réponse, et ben en fait, c'est vraiment votre gynécologue qui peut répondre à cette question parce que encore une fois, on doit s'adapter à chaque patiente. Et en fonction de là où est situé le fibrome, on conseille ou pas de faire l'opération avant ou après. La FIV.
Je voulais préciser que je suis drépanocytaire SS, donc c'est tout ça qui me fait peur. Je voudrais savoir avant de m'engager.
Vous avez peur par rapport à quoi?
À l'opération, en fait.
Ben, du coup, ben, de toutes les façons, il y a toujours des risques à se faire opérer, mais encore une fois, il faut en fait qu'il y ait une discussion avec votre médecin. Et notamment, c'est avec le médecin qui vous suit par rapport à la drépanocytose. Et en fait, c'est une discussion entre médecins et avec vous pour décider quelle est la bonne démarche à avoir pour vous. Est-ce qu'il faut d'abord commencer par une opération pour enlever le fibrome ou est-ce qu'il faut d'abord commencer par la FIV? D'accord? Mais moi, je ne peux pas vous donner de bonnes réponses à la radio. C'est vraiment, en fait, il faut que les médecins qui vous suivent et qui vous prennent en charge, qui connaissent, en fait, votre situation, qui connaissent, en fait, la localisation du fibrome, comment est tolérer votre drépanocytose, qui peuvent, en fait, répondre à cette question. D'accord? Faites confiance aux médecins qui vous suivent.
Oui, d'autant plus, Marceline, si vous engagez dans une FIV, vous allez avoir affaire à des vrais professionnels. Donc, il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Ouais. Posez-leur toutes vos questions à ces médecins que vous avez au Cameroun.
D'accord.
D'accord.
Voilà. Très bonne journée à vous, Marceline, à Yaoundé. Docteur Johan Roca, autre question. Là, c'est de Tunisie, hein, qu'on nous appelle de Tunis, où l'on retrouve Fatma. Bonjour, Fatma.
Bonjour, madame. Bonjour.
On vous écoute, Fatma.
Bon, j'ai une fébrile de 8 cm sur 6 cm.
D'accord.
Ok. Et puis, j'ai toujours une inflammation. Et quand j'ai fait des consultations, donc, il me dit que j'ai rien du tout. Et ça me dérange beaucoup dans les rapports.
D'accord.
Vous ressentez des douleurs, Fatma, lors des rapports sexuels,
oui,
c'est ça?
Je sens des douleurs, oui. Dans les rapports, je sens des douleurs. Et quand je pose la question au médecin, est-ce que c'est à cause du fibrome, ils m'ont dit non, ça n'a rien à voir.
D'accord.
Mais avec les consultations, les analyses et tout, je n'ai pas d'autre chose, d'autres maladies ou quelque chose d'autre, que la fibrome. En plus, quand je veux faire l'opération, J'ai eu trois médecins, c'est-à-dire trois avis, et chaque médecin il m'a dit c'est mieux que tu ne touches pas. Vu qu'il n'y a pas d'hémorragie et tout, c'est pas la peine de faire une opération. Et en même temps, quand j'ai posé la question, parce que mon mari il est un Français aussi, donc quand il a posé la question chez vous, l'opération, même la manière de l'opération, c'est pas comme nous. Encore, c'est classique ici. Vous ne faites pas une opération quoi, normale.
Ça veut dire sans ouverture,
sans ouverture, voilà. Sans cœlioscopie probablement.
Mais ça dépend des cas, encore une
voilà,
fois.
Voilà, ça dépend des cas. Alors, moi, encore une fois, c'est difficile de vous répondre à la radio, mais j'ai envie de vous dire que peut-être qu'il faudrait faire confiance aussi aux gynécologues. S'ils vous ont dit que du coup, peut-être que la chirurgie, c'était peut-être pas une bonne solution. Voilà, moi, je peux pas apporter de réponse de façon formelle. C'est sûr que si, effectivement, en faisant les examens, en faisant l'échographie... Est-ce que vous avez fait une IRM? Une IRM pelvienne?
Non, j'ai pas fait. L'IRM, j'ai pas fait, non.
D'accord. Alors voilà, c'est sûr qu'il faudrait être sûr qu'il n'y ait pas d'autres causes à vos douleurs. Voilà, on peut avoir plusieurs causes de douleurs pendant les rapports. Donc voilà, si effectivement il s'avère, alors peut-être qu'il faudrait revoir vos médecins, peut-être faire une IRM si c'est possible, si c'est envisageable. Et si effectivement il n'y a pas d'autres causes aux douleurs hormis le fibrome de 8 cm, alors effectivement peut-être que c'est ce fibrome qui est en rapport avec vos douleurs lors des rapports. Et que peut-être qu'il faudrait envisager de l'enlever.
Mais encore une fois, Fatma, difficile de répondre à distance.
Voilà, c'est difficile, je peux pas répondre.
Il faut un examen, avoir tout sous les yeux. C'est vraiment compliqué là de le faire à distance. Donc, encore une fois, ce même conseil qu'on donne depuis le début à nos auditrices. Vous avez des gynécologues, allez les voir, posez leurs questions et écoutez aussi leurs recommandations. C'est le mieux qu'on puisse vous dire. Excellente journée, Fatma, à Tunis. On disait tout à l'heure, le fibrome, première cause d'ablation de l'utérus, d'hystérectomie,
oui,
chez les femmes de 35 à 50 ans. Dans quel cas, justement, on en arrive à cette solution radicale?
C'est lorsque, du coup, les autres types de traitements n'auront pas été efficaces. Donc, c'est essentiellement les traitements donc par médicament. Donc, on a des médicaments qui peuvent diminuer les symptômes, donc diminuer l'abondance des règles, diminuer, voire arrêter également les douleurs. Que ce soit les douleurs hors règles, les douleurs pendant les règles, les douleurs pendant les rapports. Et puis on a également, par exemple, l'embolisation. L'embolisation, c'est lorsque l'on va aller boucher de façon transitoire les artères de l'utérus. Donc ce sont les artères qui apportent le son au niveau de l'utérus pour essayer de figer un petit peu le fibrome et le dessécher, entre guillemets. Donc par contre, l'embolisation, c'est réalisé par un radiologue, il faut une hospitalisation d'au moins 1 à 2 jours, voilà, c'est pas strictement anodin non plus. Et lorsque, du coup, en tout cas, les traitements médicamenteux n'auront pas... on arrive à bout de course, en fait, de ces traitements médicamenteux, on peut effectivement proposer une opération. Voilà, encore une fois, ça va dépendre aussi du souhait de la patiente, de son âge, de son désir de grossesse. Et maintenant, au niveau des opérations, on peut faire une opération qui conserve l'utérus, pendant laquelle on va juste enlever le ou les fibromes qui sont en cause, ou alors, effectivement, l'ablation de l'utérus, donc l'hystérectomie, où on va carrément enlever l'utérus. encore une fois, on estime à peu près à 70 000 nombres d'hystérectomies par an qui seraient liées, enfin, en tout cas, d'hystérectomies faites pour cause de fibrome en France.
C'est encore très important.
C'est encore important.
Docteur Joanne Roca, on va parler tout de suite de la prise en charge de ces fibromes, justement, au Cameroun. On va partir pour Douala.
Priorité santé sur RFI.
On vient d'échanger tout à l'heure avec plusieurs de nos auditrices qui étaient justement en ligne du Cameroun. À présent, c'est une gynécologue obstétricienne, docteur Monique Onomojong. Bonjour.
Bonjour.
Alors, une première question, docteur, sur la fréquence de ces fibromes utérins, précisément pour votre pays, le Cameroun.
Écoutez, comme tout le monde le sait, c'est une pathologie extrêmement fréquente en Afrique. Et au Cameroun en particulier, parce que c'est une pathologie qui est fréquente malheureusement chez les femmes de race noire. Donc, au Cameroun, bien entendu, on a un nombre incalculable de femmes souffrant de cette pathologie. Et par exemple, moi, dans ma pratique quotidienne, j'ai environ un quart de mes consultations qui vont concerner directement ou indirectement une femme porteuse de fibromes.
Alors, on disait tout à l'heure en introduction, pas toujours simple de comprendre les causes de survenue du fibrome. Précisément, comment ou est-ce que l'on sait expliquer pourquoi les femmes noires sont davantage sujettes à ces fibromes ?
On ne sait pas, on n'a pas d'explication vraiment claire. On soupçonne peut-être une plus grande sensibilité aux œstrogènes au niveau des récepteurs, au niveau de l'utérus, peut-être. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas d'explication vraiment très très claire.
Alors, docteur Monique Onomojong, quelles sont les grandes questions ou les principales conséquences que vous constatez de ces fibromes lors de vos consultations ?
Alors, déjà, ce que je constate, c'est que nous, contrairement à l'Europe, on voit des fibromes chez des femmes extrêmement jeunes. Mmh. Qui peuvent commencer chez des femmes extrêmement jeunes, des femmes qui ont 25 ans, qui arrivent avec des fibromes déjà très gros. On a aussi souvent aussi de volumineux utérus fibromateux, c'est-à-dire on a des fois des utérus qui sont gros comme des grossesses de 6 mois. C'est pas rare. Et donc, ça conduit souvent aussi à des interventions chirurgicales multiples. C'est pas rare que des patients qui aient été opérés aient eu des myomectomies deux fois dans leur vie. Parce que ces pathologies commencent très tôt avec parfois avec des douleurs, des compressions, parce que vous comprenez bien que si ces fibromes, ces utérus fibromateux sont très gros, ils vont avoir des effets de compression sur les organes alentours, en particulier les organes urinaires. Donc il faut opérer ces patients s'il y a des compressions, s'il y a des douleurs, s'il y a des saignements qui sont au-delà de tout traitement, malgré tous les traitements qu'on peut donner. Parfois, les saignements ne s'arrêtent pas. Et puis, il y a aussi les problèmes liés à la fertilité. Parce que si les fibromes et grossesses peuvent faire bon ménage, parfois, la localisation des fibromes fait que les grossesses sont difficiles, surtout quand il s'agit de fibromes qui sont dans la cavité utérine. Et cela, il faut les opérer. Donc, ça nous fait beaucoup de champs d'intervention et de pauses de consultation à cause de ces fibromes.
Alors, on imagine avec tout ce que vous venez de nous expliquer, docteur Onomojong, que les patientes sont plutôt bien informées de la maladie. Il doit y en avoir pas mal dans les antécédents, chez les mères, les grands-mères. Par contre, pour ce qui est de la prise en charge, qu'est-ce que vous proposez ? Et est-ce que les femmes sont au courant des différentes solutions ?
Alors, pas forcément toujours. Effectivement, les femmes sont bien informées de cette pathologie parce qu'elle est très fréquente, mais c'est une pathologie qui fait peur. Les femmes ont l'impression que fibrome égale intervention chirurgicale. Donc, pas forcément, comme ça a été bien expliqué tout à l'heure, il y a quand même des traitements possibles avant d'en arriver à une intervention chirurgicale. Tous les fibromes, d'ailleurs, ne nécessitent pas une intervention chirurgicale. Il y a des fibromes qui ne vont pas évoluer, qui ne vont gêner en aucune façon une grossesse et qui n'entraînent aucun symptôme. Donc ceux-là, on les laisse tranquilles. Par contre, il y a un certain nombre de fibromes qui vont nécessiter une intervention, effectivement. Et c'est ce qui fait peur, effectivement, à la majorité des femmes au Cameroun, quand on dit à une patiente ben, « vous avez un fibrome », elles disent « ah mais on va m'opérer, docteur ». Donc ça, il y a une information réticence. À faire là-dessus. Mm-hmm. Voilà, une réticence et une, surtout une information à faire aux femmes en disant que tous les fibromes ne nécessitent pas une intervention chirurgicale.
Par contre, docteur Onumodjong, tout à l'heure, vous parliez de ces fibromes très spectaculaires. Est-ce que, justement, la grosseur complique la tâche lors de l'intervention? En gros, plus le fibrome est volumineux, plus l'opération est complexe ou ça n'a aucun rapport?
Alors, ça dépend, oui, parce qu'il y a des fibromes qui peuvent être à côté des voies urinaires et voilà, il peut y avoir des petits soucis chirurgicaux à la dissection de ces fibromes. Mais c'est surtout le nombre de ces fibromes qui peut être, parce qu'il n'est pas rare de voir ici des patients qui ont une vingtaine de fibromes sur leur utérus. Et ce sont des interventions. Alors, si on décide de faire une myomectomie, c'est-à-dire enlever les fibromes, il y a deux types d'interventions comme ça a été expliqué auparavant. On peut enlever la totalité de l'utérus, mais ça implique que la femme n'ait plus de désir de grossesse. Et puis, il y a le cas, nous, on a souvent affaire à des femmes jeunes qui n'ont pas forcément réalisé leur désir de grossesse et qui ont des multiples fibromes sur leur utérus. Donc, on opte plutôt pour une myomectomie, mais ce sont des interventions qui sont susceptibles de saigner abondamment. Il n'est pas rare qu'on soit obligé de faire des transfusions sanguines au cours de ces interventions.
Une toute dernière question. Tout à l'heure, on parlait des réticences de certaines femmes, justement. Par quels mots on peut leur expliquer qu'il faut être suivi, il faut être dépisté et être traité pour ces fibromes? C'est important?
Eh bien, c'est important parce que plus on le sait tôt et plus on peut réagir et avoir... Parce que là, on n'a pas de traitement particulier pour empêcher l'évolution des fibromes. Alors, il y a des fibromes, tous les fibromes ne vont pas évoluer de la même façon. Il y a des femmes qui vont garder leurs fibromes, qui ne vont pas grossir du tout au long de leur vie, et il ne va rien ne leur arriver du tout. Par contre, il y a des femmes qui auront des fibromes avec un potentiel évolutif. Ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance, donc il faut que les femmes puissent être suivies de façon à pouvoir... intervenir plus tôt pour que ce soit moins délabrant, qu'on ne soit pas obligé de faire une hystérectomie parce qu'on ne peut pas enlever tous les fibromes, parce que les femmes craignent toujours d'avoir une hystérectomie, elles ont l'impression que c'est une mutilation. Et puis, il y a aussi le problème des grossesses. Il y a des fibromes qui ont un potentiel tellement évolutif qu'elles vont empêcher la grossesse. Et puis, les femmes vont avoir à subir des interventions multiples pour pouvoir éventuellement arriver à être enceinte un jour. Donc, les femmes qui ont des fibromes importants au niveau de leur utérus devraient savoir aussi qu'elles doivent essayer de faire des grossesses tôt. Parce qu'à un moment ou un autre, on risque d'être obligé de faire une intervention radicale type hystérectomie si les fibromes sont trop gros, trop évolutifs ou si elles ont déjà été opérées.
Merci beaucoup pour cet éclairage très complet, docteur Monique Onumodjong. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne à Douala au Cameroun. On va prendre une toute dernière auditrice de Priorité Santé. Il nous reste un petit peu de temps, on en profite. C'est du Sénégal, de Thiès, Maguette, qui est en ligne. Maguette, on vous écoute.
Oui. Bonjour,
Carole. Bonjour, vous écoute.
Bonjour, docteur.
Bonjour.
Je crois que j'ai bien entendu ma réponse.
Ah, alors
la question que je voulais poser.
C'était quoi exactement? Allez-y.
J'étais opérée. Fibrome.
Oui.
Après 3 ans de cela, j'étais chez le gynéco, mais il m'a dit qu'il y a des myomes. Puisque mon opération a été très, très douloureuse, je ne voulais pas faire une autre opération. J'ai demandé, est-ce qu'il y a possibilité de se soigner sans opération? C'est ça ma question.
Maguette, je vais laisser bien sûr la parole au docteur Joanne Roca, mais ce n'est pas parce qu'une première opération s'est mal passée, je pense que la seconde se passera forcément mal. Docteur Joanne Roca.
Alors, j'imagine que si la première fois vous aviez eu mal, c'était que c'était une anesthésie locorégionale, la piqûre dans le dos, la rachianesthésie. Vous savez pas?
Oui, oui, c'est ça.
C'est ça. Alors, de toutes les façons, oui, si, en fait, il y a encore des symptômes et qu'il y a encore d'autres fibromes et qu'il n'y a effectivement pas d'autres solutions en termes de traitement médicamenteux, donc les médicaments n'arrivent pas à vous soulager, que ce soit au niveau des douleurs ou des saignements, et que le médecin pense que c'est une bonne option de refaire une opération, eh ben, il faut encore une fois faire confiance à votre médecin.
Est-ce qu'il peut y avoir une autre option pour l'anesthésie, par exemple?
Voilà. Après, on peut aussi faire peut-être une anesthésie générale. Donc vous êtes complètement endormie. Ça, c'est une discussion à avoir avec le médecin et à avoir avec l'anesthésiste.
Lui raconter justement comment ça s'est passé, Maguette, la première fois, que ça vous angoisse et que peut-être il faudrait changer les choses pour une deuxième opération.
D'accord. Parce que le chirurgien a commencé l'opération avant l'effet de l'anesthésie. Et je sentais trancher mon ventre. J'ai crié, il m'a dit, madame, tu délires. J'ai dit, je ne délire pas. Je le sens, mais lui, il ne me croit pas. Finalement, ils ont fait l'anesthésie générale.
Ah, d'accord. Donc, voilà, donc effectivement, pour une autre opération, peut-être que d'emblée, il faut peut-être voir avec l'anesthésiste pour peut-être opter pour une anesthésie générale d'emblée, peut-être.
Ça peut être une des solutions, encore une fois, discuter avec votre médecin, Maguette. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Merci beaucoup, en tout cas, de votre appel du Sénégal. Une toute dernière question, docteur Joanne Roca. Est-ce que le traitement, la prise en charge des fibromes utérins a changé au cours des dernières années?
Alors oui, ça a changé. Ça a changé non seulement au niveau des traitements médicamenteux. Là, on a eu de façon récente, il y a quelques années, un nouveau traitement qui était arrivé sur le marché, qui était un traitement un peu spécifique et qui était en fait le traitement qui permettait éventuellement de stabiliser en fait l'évolution des fibromes. Je dis était parce que c'est un traitement qui malheureusement, pour l'instant, est suspendu.
C'est l'ESMIA, c'est ça, oui, exactement. Parce que ça a provoqué des problèmes chez certaines femmes.
Il y a effectivement eu en fait 3 cas de patientes dans le monde sur à peu près 700 000 patientes qui ont pu bénéficier de ce traitement, qui ont dû avoir une greffe hépatique, donc en fait une insuffisance hépatique sévère, donc une fois qu'ils ne fonctionnaient pas de façon anormale et de façon sévère, au point qu'elles ont dû avoir une transplantation, donc une greffe de foie. Donc c'est une complication qui est quand même pas strictement anodine, mais effectivement qui était rare. Et pour l'instant, ce traitement est suspendu. Les autorités de santé en fait attendent d'avoir plus d'éléments pour pouvoir peut-être éventuellement le remettre sur le marché. Et enfin, au niveau des traitements chirurgicaux, de la chirurgie, de plus en plus on développe une chirurgie moins invasive. Ça veut dire en fait que du coup, de moins en moins on essaie en fait de faire des opérations avec des petits trous par stéthoscopie quand c'est possible.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, docteur. Je rappelle que vous êtes gynécologue, docteur Joanne Roca, obstétricienne à l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis.
Bulletin de santé.
On se retrouve pour ce tour d'horizon des faits marquants de la semaine. Un bulletin de santé que j'ai le plaisir de présenter en votre compagnie. Juliette Rangeval, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Et pour commencer Juliette, cette étape avant de pouvoir annoncer la fin de l'épidémie d'Ebola dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo.
Oui Caroline, compte à rebours enclenché d'après le ministre congolais de la Santé qui relève qu'une première période de suivi de 21 jours sans signe de contamination est confirmée pour toutes les personnes ayant été en contact avec le dernier cas avéré de maladie à virus Ebola. La fin de l'épidémie sera déclarée lorsque le pays aura totalisé 42 jours, soit 2 périodes d'incubation sans nouveau cas.
À Mayotte, dans le département français de l'océan Indien, une grande campagne de vaccination infantile.
13 500 enfants vaccinés en moins d'un mois, entre le 22 mai et le 30 juin. 2 fois plus d'enfants ont en fait été vus, mais la moitié d'entre eux étaient à jour dans leur vaccination.
La réforme de l'hôpital en France, ce n'est pas pour tout de suite.
Elle était attendue cet été, mais elle ne sera pas présentée avant le début du mois de septembre. C'est ce qu'a fait savoir ce mercredi la ministre des Solidarités et de la Santé. Réforme large et complexe qui vise le long terme, à en croire Agnès Buzyn, qui précise que ce projet doit encore être discuté avec les différents acteurs du système.
Une tendance inquiétante qui concerne la santé reproductive masculine sur la base de chiffres qui ont été publiés ces derniers jours par Santé publique France.
Dans son bulletin épidémiologique, l'agence a étudié à la fois la dégradation de la qualité du sperme et les cas de puberté précoce. Avec ce constat, entre 1989 et 2005, la concentration en spermatozoïdes a chuté de près d'un tiers, un phénomène qui n'est pas propre à la France et pour lequel le facteur environnemental est fortement soupçonné. André Sicolella, président du réseau Environnement Santé.
Cette étude reprend des données qui avaient déjà été publiées, mais c'est complété sur la baisse de la qualité du sperme en France, sur la répartition régionale, mais aussi sur l'abaissement de l'âge de la puberté chez les filles et chez les garçons. Une grande partie des pesticides sont des perturbateurs endocriniens, mais aussi des substances comme le bisphénol A ou les phtalates induisent cette baisse de la qualité du sperme.
Donc ce sont des résultats qui ne vous étonnent pas finalement?
Non, puis la France n'est pas un pays isolé. On a 2 grandes études, je l'appelle des méta-analyses, qui rassemblent rassemble toutes les études au niveau mondial qui ont été publiées l'an passé et qui font le même diagnostic. En gros, depuis 50 ans, on a perdu 50 à 60% sur la qualité du sperme. Donc la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est jusqu'où on va? Parce que si on continue cette descente au même rythme, eh bien on arrive à zéro dans les années 2040-2050, et ça n'est pas rien. Mais de toute façon, on voit déjà les conséquences, puisqu'on a une augmentation de l'infertilité. En France, on était un couple sur 7 il y a 20 ans, on est un couple sur 5 aujourd'hui. En plus, de gens sont confrontés à ce problème de l'infertilité, c'est vrai pour les hommes, c'est vrai aussi pour les femmes. Et l'infertilité chez les femmes est aussi liée aux perturbateurs endocriniens.
Des propos recueillis par Michel Diaz. Cette recommandation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, Juliette, qui concerne les vêtements neufs.
Des vêtements qu'il faut laver avant de les porter pour la première fois, car les textiles ont pu être exposés à de la benzidine, du chrome 6 ou du nickel, des perturbateurs endocriniens, des substances chimiques irritantes ou toxiques.
En France toujours, l'Académie de médecine et la Haute Autorité de Santé s'opposent publiquement au sujet de la maladie de Lyme.
Controverse après la publication le 20 juin dernier par la Haute Autorité de Santé de recommandations officielles dans le traitement de la maladie transmise par les tiques. L'Académie reproche des conclusions et des recommandations publiées à ses yeux sans preuve et susceptibles d'entraîner une prise en charge lourde. La controverse oppose depuis des années associations de malades et médecins qui souhaitent voir reconnues des formes chroniques de la maladie, alors qu'une partie du corps médical dénonce pour sa part des campagnes de désinformation.
Elle avait beaucoup fait parler d'elle. À la fin 2017, l'usine Lactalis de Craon, en Mayenne, va rouvrir.
Cette usine, elle a été au cœur d'une affaire de contamination aux salmonelles. Une trentaine de bébés avaient été intoxiqués. Cette reprise des activités a été décidée par la préfecture, en concertation avec le ministère de l'Agriculture. On parle pour l'instant de production sans commercialisation, le temps d'effectuer des contrôles renforcés avant l'autorisation de mise sur le marché. Quant à la commission d'enquête parlementaire créée à l'issue de cette affaire sanitaire, elle n'a toujours pas publié ses conclusions.
Des primes, Juliette, pour inciter les futurs médecins à exercer dans des déserts médicaux.
Les internes en stage ambulatoire pourront obtenir une indemnité forfaitaire d'hébergement de 200 euros s'ils exercent dans une zone géographique sous-dotée en médecins et distante de plus de 30 km de leur domicile.
Du nouveau aussi du côté des études pour devenir infirmier ou infirmière.
Oui, terminer le concours à partir de 2019 pour les futurs infirmiers. À compter de l'an prochain, les instituts de formation en soins infirmiers vont sélectionner sur dossier 30 000 lauréats. Changement aussi pour la sixième année de médecine, avec la fin des épreuves classantes nationales pour choisir la spécialité. À la place, en fin de cinquième année, les futurs internes devront passer un examen des acquis.
Près de 2000 kinésithérapeutes en colère dans les rues de Paris, c'était hier.
Manifestation pour réclamer une meilleure reconnaissance de leur métier, pour dénoncer aussi un récent décret sur la formation des chiropracteurs, ce que les kinés assimilent à une forme de concurrence déloyale.
Et puis pour terminer, l'affaire est largement commentée sur les réseaux sociaux. L'ex-ministre de l'économie et des finances, Jérôme Cahuzac, est retourné à son premier métier, la médecine.
L'ex-ministre de François Hollande, condamné pour fraude fiscale, exerce en effet en Guyane, cette région française d'outre-mer d'Amérique du Sud. Jérôme Cahuzac a été embauché en tant que contractuel pour effectuer un remplacement d'un mois au centre de santé de Camopi. C'est une région inaccessible située à la frontière du Brésil.
Merci beaucoup Juliette Rangeval et à très bientôt sur l'antenne de RFI. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission aujourd'hui. À C'est Toussaint Maquet, Sigrid Azéroual, Didier Bleu. Et lundi, nous parlerons des maisons de santé, ces regroupements de professionnels pour faciliter l'accès aux soins. Et vous pouvez bien sûr réécouter notre émission sur le site internet de RFI, rubrique émission, également l'application Pure Radio. On se retrouve lundi.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.